Bonjour à tous et bienvenue sur Microscience, l'émission radio de votre site Parlons Peu, Parlons Science. Avec moi, Marion Guillaumin, la rédactrice en chef du site. Bonjour Marion.
Bonjour Jody.
L'été se termine, est-ce que vous avez eu le temps de danser un peu Marion?
Oula, non, pas vraiment. J'ai plutôt travaillé cette émission, entre autres.
Eh bien, si ce n'est pas votre cas, peut-être certains de nos auditeurs auront eu l'occasion de danser sur les tubes de l'été qui ont inondé encore une fois nos radios, nos discothèques et nos plages. Mais la science dans tout ça. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux publications. La première datant donc de décembre 2014 et qui nous vient du sud de la Californie. Les chercheurs se sont plutôt intéressés aux paroles de la chanson. Marion, je vous laisse nous en dire un peu plus.
Alors effectivement, ces chercheurs se sont intéressés au pouvoir de la répétition dans une chanson. Ils ont donc prouvé que plus les paroles sont simples et répétées, plus la fluidité, c'est-à-dire l'aisance du traitement de l'information par votre cerveau, augmente. On parle alors de brain fluency. Plus le succès commercial est important. Alors comment ça marche? Depuis longtemps, on le sait, les scientifiques s'intéressent aux effets de la musique sur notre cerveau. Par exemple, Jody, citez-moi votre chanson préférée.
Frankie Vincent, Fruit de la Passion, je trouve que le clip est très très bien fait.
Non, je parle de la chanson, de la musique, des paroles, ce qui vous imprègne.
Vraiment. Ah mais les paroles c'est vachement bien, moi je remplace souvent, vous savez. Ça fait « Vas-y Jody, c'est bon, vas-y Jody, c'est bon, bon, bon. »
Oui. Bon, enfin bref. Donc quand vous écoutez cette chanson, qui est apparemment votre chanson préférée, cela induit dans votre cerveau la même réponse euphorique que si vous mangez du chocolat ou, je sais pas, un bœuf bourguignon par exemple, ou que si vous aviez une activité sexuelle plutôt régulière, très intense.
C'est voisine.
Non, enfin, comme vous voulez, ou que vous consommiez de la drogue. Enfin bref, ceci est un exemple parmi tant d'autres qui illustre l'influence de la musique sur le cerveau. Mais d'après vous, Jody, comment une chanson peut-elle devenir un vrai tube?
Vous prenez 3-4 filles plutôt bien foutues, vous les mettez en bikini sur la plage, avec un petit peu de sable sur le corps.
D'accord, vous êtes encore avec Frankie Vincent là, c'est ça?
Mais je pense qu'il avait du génie ce mec là quand même, hein. Franchement. Il avait la musique, le move, quelque chose de bestial.
Oui, mais je suis désolée de vous décevoir, mais les chercheurs se sont plutôt penchés sur la sémantique, et plus précisément sur le refrain. Donc le refrain représente des paroles simples et répétitives, et puis il est répété régulièrement au sein de la chanson. Cela interpelle l'auditeur, et puis les paroles sont alors beaucoup plus facilement mémorisées. Paroles simples et répétées, cela permet au cerveau de vraiment d'intégrer le contenu de cette chanson.
Ouais, en fait, on essaie d'attraper l'auditeur avec des paroles plutôt simples, c'est un peu comme à la pêche.
Oui, d'attraper l'auditeur, hein, pas d'attraper le bikini.
D'accord.
Voilà, oui. Donc cela permet alors...
Pensez à l'auditeur, bien sûr.
Cela permet alors un traitement beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis de l'information par notre cerveau, et nécessite alors moins de ressources cognitives. Vous n'avez pas besoin vraiment de réfléchir pour retenir les paroles de Frankie Vincent.
Ouais, donc en fait c'est la facilité que le cerveau a à enregistrer l'information qui fait que la chanson est retenue plus facilement et qu'elle devient populaire.
Exactement, mais vous avez tout compris.
Un autre facteur qui favoriserait cette fluidité de la compréhension, ce sont les rimes.
Voilà.
Donc il semblerait que plus les phrases sont simples, plus elles sont enregistrées par le cerveau, mais aussi plus les sons sont similaires à la fin de ces phrases, plus le cerveau les traite avec aisance. Donc si vous combinez la répétitivité des phrases, leur simplicité et le fait qu'elles riment à la fin, le cerveau en fait n'a quasiment pas de travail à faire pour enregistrer les refrains des chansons.
Exactement. Est-ce que vous avez un petit exemple pour nos auditeurs?
Laisse-moi être celui qui partage ta vie, oui, celui à qui tu te confies. Rime en i. Facile à enregistrer,
sauf celui qui partage ta vie. Enfin bref, comme on l'entend beaucoup et qu'elles sont simples et répétitives, on les écoute, mais arrivé à un moment donné, il y a un effet de saturation. Et d'ailleurs, des scientifiques l'ont démontré dans les années 70, il peut exister la répétition de trop. Je suppose que ça vous est déjà arrivé.
Oui, sur certaines chansons. C'est-à-dire le moment où on écoute une chanson, on l'écoute parce qu'on l'adore.
Voilà.
Et il y a un moment où un jour, on se met à l'écouter et on en a marre.
On n'a plus envie de l'écouter. Voilà, c'est ça. On n'en peut plus, on ne la supporte plus. Et là, c'est fini, c'est la fin. Cela a un effet négatif sur la consommation de la musique, sur l'écoute, sur voilà, elle passe toujours à la radio, mais on change de station. Et donc on peut se demander si cela n'a pas un impact direct sur un succès plutôt éphémère de certaines musiques.
Comme vous le savez, beaucoup de chansons sont répétitives, ont des refrains qui reviennent souvent et riment. Pourtant, toutes n'ont pas explosé les scores du hit parade. Alors pourquoi? Comment faire pour prédire le tube de l'été prochain alors que ces conditions ne suffisent pas à elles seules à faire d'une chanson un tube. Marion, il me semble que c'est ce que propose la deuxième étude que vous voulez nous présenter. Alors, oui, je vous écoute.
Alors, ce sont des Américains en 2011 qui ont voulu tester si c'était possible de prédire le succès d'une chanson. Donc, en gros, prévoir si un titre pouvait devenir un vrai tube. Du coup, ils ont étudié l'activité cérébrale de 32 adolescents pendant l'écoute de plusieurs chansons. Et ils se sont rendus compte que trois zones spécifiques du cerveau s'activaient. Donc, dans un premier temps, le cuneus, qui est une partie interne du lobe occipital. Le cortex orbitofrontal, et c'est une zone qui entre en jeu dans le processus de décision et qui est liée aux émotions. Et puis le noyau accumbens, qui est une sous-partie du striatum ventral, qui lui a un rôle très important dans la dépendance et dans les émotions également. Donc ce sont ces trois zones qui se sont activées lorsque les participants ont écouté les chansons. Donc ils se sont rendus compte que quand la chanson plaisait à l'auditeur, le cortex orbitofrontal et puis le noyau accumbens sont activés fortement quand la chanson plaisait à l'auditeur. Et dans un deuxième temps, quand ils écoutaient un tube, indépendamment du fait de l'aimer ou de ne pas l'aimer, seulement le noyau accumbens s'activait significativement.
Donc responsable de la dépendance.
Voilà, c'est ça.
Et de l'émotion.
Et là, par contre, le cortex orbitofrontal n'aurait pas été significativement activé. Donc ils ont vu une activation, mais indépendamment du goût de la personne. Et par contre, ils se sont aperçus que si la chanson n'était pas un tube, là, l'activité du cortex orbitofrontal et du noyau accumbens était basse. Ils expliquent qu'ils auraient pu prédire si une chanson ne devenait pas un tube.
D'accord, donc on peut pas prédire qu'une chanson deviendra un tube.
Exactement.
Par contre, on pourrait prédire quand est-ce qu'une chanson n'a aucune chance de devenir un tube.
Exactement, ça peut être pratique quand même.
Oui, ça pourrait très bien être pratique. Ça pourrait éviter à certaines choses de circuler sur le net. Marion Guillaumin, merci d'avoir été là.
Bon, merci à vous.
Merci d'avoir suivi Microscience sur Parlons Peu, Parlons Science. Bonne journée à tous,
merci.
Et à bientôt.